Radio Okapi. Okapi.
Les titres de l'actualité à l'Équateur, 18 personnes seulement se sont fait enregistrer sur 8000 réfugiés centrafricains accueillis sur les sites de Molé au motif que les musulmans n'en veulent pas. En mission à Zongo, la délégation conjointe Monisco-Société civile met en garde les irréguliers. Le retour massif des compatriotes venus de la RCA et la présence des réfugiés de ce pays mettent mal le fonctionnement de l'hôpital de Zongo. Le médecin chef de zone des santé en appelle à l'aide de bonne volonté pour sauver des vies humaines, y compris les PVV. En Ituri, la société civile accuse l'entreprise Oil of DRC de n'avoir réalisé aucune action d'intérêt social depuis 2010. Cette ONG dénonce aussi l'opacité dans la gestion du contrat de partage de production avec le gouvernement. Bonsoir à tous. En retour à Mbandaka de la délégation mixte Monisco-Société civile après une mission effectuée à Zongo. C'était pour sensibiliser les réfugiés centrafricains, chrétiens et musulmans à ne pas transposer leur conflit en République démocratique du Congo. Il apparaît clairement que le refus des musulmans à se faire enregistrer auprès des autorités compétentes inquiète les observateurs. C'est ce que nous explique Mbandaka Béatrice Nabindi.
Cette délégation mixte a procédé à une série de sensibilisations auprès des réfugiés qui étaient dans des familles d'accueil. La stratégie adoptée était de porte à porte. Pour l'instant, un incident a été enregistré. Selon des témoins, les chrétiens ont failli s'affronter avec des musulmans suite à la tentative de ces derniers d'organiser une prière dans les camps des réfugiés de Molé. La délégation a pu constater que 3 familles seulement se sont enregistrées, soit 18 personnes, sur plus de 8000 réfugiés dans le même site. Selon la même source, ces musulmans refusent de s'enregistrer auprès de la Commission nationale aux réfugiés. La délégation a prévenu, tout réfugié qui ne se fera pas enregistrer, son séjour en RDC sera considéré comme irrégulier. Dans ces cas, ils se feront expulser. Pour l'instant, la ville de Zongo, le coût de la vie est devenu exorbitant et la population a difficile à vivre plus ou moins décemment. Mbandaka, Béatrice Nabindi, Radio Okapi.
Revenons un court instant à l'Équateur où l'hôpital général de Zongo est en ce moment en difficulté suite au retour massif des compatriotes venus de Centrafrique et des réfugiés de ce pays. D'après le médecin chef de zone des santé, ces personnes utilisent les lits d'opération et d'accouchement qui datent de l'époque coloniale. Pas d'équipement pour la chirurgie ni de médicaments essentiels pour prendre en charge les 120 PVV enregistrés à ce jour. Docteur Paulin Lissimo appelle les bonnes volontés à aider cet hôpital. Il est au micro de Béatrice Nabindi.
Pour le moment, sur l'ensemble de la zone de santé, seulement la population autochtone, nous avons 72 malades sous traitement de la première ligne. Mais en ce qui concerne le site des réfugiés de Molé, en tout cas, les chiffres qui nous ont été remis par les responsables, c'est 28 malades ou 28 PVV qui sont sous traitement. Donc au total, nous avons 120 malades ou PVV qui sont sous traitement de la première ligne. Mais nous avons aussi au niveau des sites 5 PVV qui nécessitent d'être mis sous traitement de la deuxième ligne. Malheureusement, il n'y a pas de molécules pour cette ligne-là. En tout cas, nous avons les sérieux problèmes d'approvisionnement. Même les quantités que la sous-coordination PNLS-Gemena nous livre ne nous permet pas tellement de découvrir les besoins de tous nos PVV pour un long moment.
L'actualité, c'est aussi la fin hier à Lubumbashi d'un séminaire de sensibilisation sur l'option B+1. Cette option vise à aider les femmes enceintes et atteintes du VIH-Sida à donner naissance à des enfants sains suite à une prise en charge pendant les 9 mois de grossesse. Pour l'UNFPA et l'UNICEF qui ont organisé et financé ces assises de Lubumbashi, l'objectif est de parvenir à une génération sans sida à l'horizon 2035. Plusieurs leaders communautaires ont pris part à ces assises. À Lubumbashi, le compte-rendu de Karine Topé.
Pour l'UNIFPA, le choix de former les leaders communautaires comme les responsables des églises, les mouvements des jeunes, les enseignants, les pères éducateurs, les ONG œuvrant dans le secteur sanitaire et les autorités politico-administratives vise à atteindre un plus grand nombre des femmes possibles. C'est la zone de santé de Kampemba Lubumbashi qui a été choisie comme zone pilote pour le démarrage des activités de l'option B+ en RDC. Selon le médecin-chef de cette zone de santé, les acteurs communautaires formés au cours de ce séminaire ont la lourde responsabilité tenté de convaincre les femmes et leurs partenaires hommes de suivre les consultations prénatales CPN, ce qui les aidera à connaître leur état sérologique et faire le suivi du bébé pendant la grossesse jusqu'à sa naissance. Il faut ajouter sur cette liste des dispositions nécessaires pour que cet enfant naisse sans être contaminé. Les participants se disent suffisamment outillés.
C'est dans l'option B+ que nous avons eu des informations, où nous avons eu une formation avec des indications différentes par rapport à ce que nous avions appris antérieurement.
Selon le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, pour atteindre l'objectif du millénaire, celui d'atteindre une génération sans Sida d'ici l'an 2035, il faut prévenir la transmission du Sida de la mère à l'enfant. Lubumbashi, Karine Topé, Radio Okapi.
Autre lieu, autre rendez-vous de l'actualité, l'Ituri. Les communautés locales du bloc 1 du Graben Albertine accusent la compagnie pétrolière Oilof DRC de n'avoir réalisé aucune action sociale depuis 2010. Selon le président de leur comité, cette compagnie doit plus de $375 000 pour financer les projets d'intérêt communautaire dans le territoire de Djougou. Dans une pétition adressée au ministre national des hydrocarbures, cette organisation dénonce l'opacité dans la gestion du contrat de partage de production avec le gouvernement congolais. À Bounia, la correspondance d'Isaac Romoyope.
Le contrat de partage qui lie le gouvernement et Oilof Congo prévoit en son article 5 que cette compagnie doit allouer $125 000 chaque année par bloc au profit des populations locales. David Mambo, président du comité de concertation du bloc 1, rapporte que ces montants étaient destinés à la construction des structures sanitaires et des écoles dans 11 collectivités en territoire des Djougou et Mahagi. Mais il déplore la réhabilitation d'une seule école depuis 3 ans par cette société. Il s'agit de l'Institut Saint-Kizito de Djiba pour un coût total de $42 000. Pour les communautés locales, cette société n'est pas viable. Dans leur pétition adressée au ministre des hydrocarbures, elle recommande le retrait des blocs 1 et son attribution à la compagnie Total qui a proposé $1 million d'action sociale aux communautés riveraines des blocs 3. Contacter les responsables des Oilof Congo en Ituri a indiqué que son entreprise a déjà investi au-delà des montants prévus dans les contrats pour les actions sociales, soit plus de $2 million pour les blocs 1 et 2. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Faisons à présent un détour par Kisangani, chef-lieu de la province orientale, où le nouveau bourgmestre de Kabondo appelle les jeunes de sa commune à se désolidariser définitivement des fauteurs de troubles et actes de violence qui sèment l'insécurité. Annonce faite vendredi après-midi lors des entretiens avec ses administrés. Cette interpellation intervient en tout cas après la prise de position d'un groupe de jeunes de Kabondo à coopérer avec les autorités pour dénoncer d'éventuels troubles à l'ordre public. Radio Okapi Kisangani, Godlive Omondo.
Cet appel du bourgmestre de Kabondo a été lancé lors de son premier contact avec sa base. Maître Agenonga Udaga a déclaré être déterminé notamment à rétablir la sécurité dans cette entité en proie à une insécurité récurrente.
La sécurité n'est pas l'apanage d'un seul individu, mais que tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour permettre à ce que l'ordre revienne. Et là, je dois sincèrement inviter tous les membres de sécurité et toute la population à pouvoir mettre un peu du sérieux dans ce système pour permettre à ce qu'on dénonce qui fait quoi et qui loge dans quel milieu pour qu'on sache quel mécanisme monter. Mais aussi, je dois saisir cette opportunité pour inviter tous les jeunes de pouvoir faire une symbiose autour du bourgmestre pour faire en sorte qu'une harmonie soit et qu'ensemble nous puissions relever les défis de l'insécurité qui plane dans la ville de Kisangani et particulièrement dans la commune Kabondo.
Les groupes de jeunes de Kabondo ont à cette occasion réitéré leurs promesses faites lors de la dernière rencontre avec le gouverneur des provinces. Ils avaient adressé leurs excuses aux autorités locales. Ceci après avoir reconnu la manipulation dont ils sont victimes de la part de certains politiciens véreux. Ils affirment être prêts à les dénoncer. Kisangani, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Enfin, c'est confiant à la presse ce week-end à Kindu où il est en mission officielle. Le ministre national des Transports et Voies de Communication a déclaré que le Maniema et la RDC en général ne valent rien sans chemin de fer. D'où la nécessité, dit-il, d'œuvrer efficacement pour la restauration de ce secteur. On écoute Justin Kalumba Mwanangongo dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga.
Nous devons aujourd'hui restaurer la voie principale de croissance économique en matière de transport. Nous sommes là pour la SNCC. Le Maniema en particulier et l'ensemble du pays ne vaut rien sans chemin de fer. Aujourd'hui, les trains représentent pour nous, surtout nous qui avons grandi au village, c'est à la fois les marchés, c'est à la fois la pharmacie, c'est à la fois la station d'essence. c'est quand les trains passent que vous allez avoir des médicaments à un coût raisonnable. Si vous avez besoin d'avoir du carburant, c'est quand il y a les trains. Si vous avez besoin d'avoir du ciment, c'est quand il y a les trains. Donc pour nous, c'est une question extrêmement importante. Et donc nous sommes venus voir ces problèmes et prendre des décisions et des dispositions qui s'imposent pour que ces locomotives soient accompagnées par une maintenance pertinente. Au-delà de ça, il faut que du côté du fleuve, nous puissions aussi voir comment les différents projets qui ont été initiés par les gouvernements ont évolué à ces jours. Et s'il y a des problèmes sur les parcours, quel type de solutions on peut apporter et tout de suite.
Et c'est la fin de cette édition de vos nouvelles à 18h10. Merci d'avoir écouté. Merci à Julien Nyamouini et Thérèse Kankou qui m'ont aidé à fabriquer ce produit.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.